Le rapport du voyage missionnaire en Afrique. 2006. Série, chef-d'œuvre numéro 86. Le 30 septembre 2006. Brian Kozurek. Acte 19h21 après que ces choses se furent passées. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. 22 Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. 23 Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. 24 Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. 25 Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. 26 Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de mains d'hommes n'émis sont pas des dieux. 27 Le danger qui en résulte. Ce n'est-ce pas seulement que notre industrie Néhémie tombe en discrédit? C'est-ce encore que le temple de la grande déesse Diane Néhémie soit tenu pour rien? Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier Néhémie soit réduite à néant? 28 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande Esther la Diane des Éphésiens. 29 Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. 30 Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. 31 Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour l'engager à n'aimer pas se rendre au théâtre. 32 Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart Néhémie savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. 33 Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. 34 Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tout d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande Esther la Diane des Éphésiens. 35 Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, homme éphésien, quel Esther celui qui ignore que la ville d'Éphèse Esther la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? 36 Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et n'aimez rien faire avec précipitation. 37 Car vous avez amené ces hommes, qui Néhémie sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. 38 Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. 39 Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. 40 Nous risquons, en effet, d'être accusé de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. 19h40 Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Ce soir, j'aimerais parler de notre voyage missionnaire d'Afrique. Comme vous le savez, nous avons quitté le 11 septembre, et avons voyagé pour la Belgique où je me suis rencontré avec frère Marcus Jankeer qui a pris la charge pastorale de l'église à Brugge après le décès de son père Donat l'été dernier. J'ai passé le jour en communion fraternelle avec Marcus, sa mère et avec le frère Erling Eriksen de Norvège. Nous y avons vu plusieurs attractions, y compris le champ de bataille à Waterloo, où Napoléon a finalement été battu, mettant fin à son règne en Europe. Notre conversation a tourné autour de la doctrine et de l'œuvre que Dieu nous a ouverte à l'étranger aussi bien que de sa situation là. Localement. Les gens qui fréquentaient l'église pendant que son père était pasteur semblaient très à l'aise avec son sermon. Et je crois que frère Marcus manipule très bien la doctrine et sera un très bon pasteur. Ce soir-là, nous avons aussi rencontré le frère Guido van der Brandt et nous avons pris un repas ensemble et avons discuté de notre voyage d'Afrique de l'Est. Nous avons quitté le jour suivant et avons pris le vol pour Entebbe où nous sommes arrivés à minuit et les frères nous ont accueillis à l'aéroport et nous ont ensuite conduits à l'hôtel où nous avons passé les quelques prochaines heures avant de partir le prochain matin pour le Rwanda. Nous avons voyagé toute la journée. Les frères venus de Kinshasa, R.D. Congo, le pasteur Désiré Mavinga et le pasteur Raphaël Mbila, étaient dans notre entourage de voyage. Le pasteur Erling Eriksen de Norvège et pasteur Kees van Klink de la Nouvelle-Zélande ont aussi voyagé en notre compagnie. Ceux qui ont voyagé avec nous à partir de l'Ouganda, ce sont le pasteur Bankele Barinet de Rukujiri Ouganda de l'Ouest, un vétéran chevronné du message et le pasteur Stephen Bianima, le plus jeune des ministres. Et aussi le frère Philippe Bakina de la région Kizoro en Ouganda de l'Ouest, qui a traduit les doctrines dans la langue native du Rwanda. Et il a voyagé avec nous pour la première moitié de notre voyage. Nous sommes partis pour le Rwanda à 8h le matin prochain et nous avons voyagé toute la journée jusqu'à ce que nous soyons enfin arrivés vers 19h. Le soir, à Kigali, Rwanda. Après notre arrivée, ce soir-là, nous nous sommes rencontrés avec les 75 prédicateurs qui sont venus de partout pour étudier la doctrine du message. Les ministres sont venus de plusieurs pays y compris l'Ouest et l'Est du Congo, de partout au Rwanda, de Burundi et de différentes parties d'Ouganda aussi bien qu'aux USA, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande, ce qui fait un total de 7 pays qui étaient représentés à ces premières réunions au Rwanda. Le vendredi matin, nous avons commencé à 9h, à prêcher la doctrine de Christ et la différence entre l'apparition et la venue, ce qui était à l'enseignement sur le parousie de Christ. Puis, nous avons pris une pause pour déjeuner et nous sommes revenus pour une autre séance de 3h30 ou 4. Cet après-midi, pénétrant dans beaucoup plus de détails concernant la doctrine de Christ, de la manière que Paul l'a enseigné, et dont Jésus lui-même l'a enseigné, et dont Jean et Jude et Pierre et René l'avaient tous enseigné. Puis j'ai fini avec ce que William Branham a dit à propos de la différence entre le Père et le Fils. Nous avons fini vers 19h, le soir. Les frères avaient l'air très ouverts à l'enseignement de la doctrine de Christ, et il n'y avait que quelques questions qui donnaient l'impression qu'ils avaient encore quelques pensées unitaires en eux. Pour les questions et réponses, j'ai choisi une formule selon laquelle les prédicateurs qui ont voyagé avec moi se sont assis à une table devant et chacun d'eux a contribué dans les explications nécessaires afin de donner une réponse satisfaisante à celui qui a posé la question. J'ai modéré les questions, et au besoin, j'étais prêt à expliquer davantage toute réponse qui nécessitait des éclaircissements supplémentaires. Mon intention était de m'assurer que ces réunions n'étaient pas un exposé d'un seul homme, parce que je n'ai mis souhaite pas que les gens me consultent pour leurs réponses. Je n'ai mis croit pas que Dieu n'est qu'un seul homme qualifié à enseigner la doctrine, et je n'ai mis souhaite pas être le seul à voyager autour du globe faisant ce travail. Je n'ai mis croit pas que ce soit le plan de Dieu. Dans le sermon, se ranger du côté de Jésus COD 62-0601 paragraphe 83 frère Branham a dit 83 et ensuite là-bas formez d'autres ministres dans vos propres groupes des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez l'ancien. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et là Enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous, Néhémie, voyez pas les choses de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend, c'est Esther en ordre. Vous êtes dans la foi de toute façon. Avancez simplement. Peut-être lorsque nous nous réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons. Le discernement de Dieu descendra et les révélera très exactement ce que c'est Esther. Voyez-vous? Il nous montrera bien comment le faire. 84 Et là-dedans, les églises peuvent aller écouter et former un groupe d'hommes. Et si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer. 85 Qu'arriverait-il si j'étais en Inde? Je retournais en Inde. Et là, je dirais à ces gens. Peut-être qu'il y aurait des milliers qui resteraient là pendant une ou deux semaines, et qui verraient ce ministère. Ils l'aimeraient. Ils croiraient que c'est la vérité. Ils sortiraient du paganisme. Ensuite j'ai. Et peut-être en deux ou trois semaines. Quand j'étais là. En deux ou trois semaines. Quand j'étais là. En deux soirées, peut-être 100 000 ont été convertis à Christ, n'ayant pas d'endroit où aller. Le jour suivant, j'ai pris un avion et je suis retourné d'abord à Rome, puis de là, aux États-Unis. Je les ai laissés juste comme des brebis abandonnées au milieu des loups. Qu'en serait-il si j'avais un groupe d'hommes, des jeunes gens formés dans le message? Voyez-vous? Je dirais, maintenant, attendez une minute. Avant que je n'aie mis parte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai déjà envoyé un télégramme, et ils ont l'argent. Ils sont en route vers ici maintenant même pour prendre la relève de ce, un brave homme. Il y a deux ou trois jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et assistants. 86 Une église de cette foi pourra être établie là. Elle sera une antenne en Inde, une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse. Or, en ce moment même, nous devrions en avoir à travers toutes les nations où j'ai été. Et le message. Alors à partir d'une antenne naîtra une autre, d'une autre antenne sortira une autre. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi nous avons voyagé avec un groupe d'hommes que nous pouvons laisser là et qui après notre départ seront disponibles à travailler avec les prédicateurs qui voudront avoir une meilleure tactique d'enseigner la compréhension correcte de la doctrine du message. Frère Branham a dit que s'il parvenait à avoir juste un homme dans un pays et que cet homme s'abandonne à Dieu, il pouvait secouer cette nation. Mon souci était de présenter ces frères venus avec moi aux autres frères. Et en les amenant à répondre aux questions de l'auditoire, j'étais capable d'évaluer ceux qui avaient réellement une révélation divine et ceux n'en avaient pas. Je peux dire que j'étais très heureux de ce que j'ai vu et entendu dans ces frères et des réponses qu'ils ont données. Ce qui m'a impressionné le plus était qu'ils n'ont pas répondu à ces questions avec des réponses intellectuelles ou rien qu'avec les réponses qu'ils ont entendues dans mes livres sur le sujet, mais au contraire, ils étaient capables d'utiliser beaucoup d'écritures et de citations. Voilà qui prouve qu'ils ont été fidèlement enseignés et qu'ils sont fidèles à l'enseignement et cela m'a montré qu'ils ont une révélation profonde de la doctrine. Après les réunions du Rwanda, nous avons voyagé pour Rukujiri, Ouganda de l'Ouest, où nous avons tenu des réunions pendant 2 jours. J'ai parlé pendant approximativement 7 heures par jour, en 2 séances, chaque jour. Il y avait 35 prédicateurs présents à ces réunions. Dimanche matin, j'ai parlé à l'assemblée et aux prédicateurs en visite. Mon thème porta sur les 45 avantages du Fils de Dieu. Ces avantages ont présenté à l'auditoire et aux prédicateurs, Le grand nombre d'écritures qui parlent du Fils de Dieu et les avantages que nous obtenons en recevant le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le lundi, nous avons tenu deux séances de 3h30 ou 4h. Rien qu'avec les prédicateurs. J'ai couvert l'apparition et la venue et je suis allé dans les grands détails concernant de la divinité. J'ai aussi commencé la doctrine en me basant sur le point de vue selon lequel frère Branham nous a montré que le prophète Esther, un signe que Dieu va parler et la voix qui suit ce signe, c'est Esther sa doctrine. Nous avons commencé la séance du matin à 9h et vers 10h. Une tempête s'est levée. Cela a commencé à déverser la pluie et la grêle si fortement que ça frappait sur le toit en tôle avec un bruit si intense que je n'ai pouvait pas m'entendre prêcher. Les vents ont aussi commencé à souffler tellement fort que j'avais l'impression que le toit pouvait être emporté. Comme je n'étais pas en mesure de m'entendre prêcher, j'ai fait signe au pasteur hôte que je m'assierais jusqu'à ce que la tempête se sera apaisée. Je suis allé m'asseoir et quand je me suis assis, il a pris une guitare pour commencer à chanter. Il a demandé que les frères chantent, mais on n'entendait rien que le cliquetis de la grêle et de la pluie. Je me suis assis sur ma chaise pendant peut-être pas plus de 20 secondes, quand quelque chose a parlé en moi et a dit « Néhémie, t'assieds pas là. Néhémie, t'ai-je pas envoyé à cet endroit ?» Vous savez que c'est Esther simplement Satan qui essaie d'interrompre ces réunions. Ainsi, je me suis levé, je suis allé à la chaire et j'ai demandé aux frères, j'ai dû parler très fort pour qu'ils m'entendent et je leur ai demandé de courber la tête pour la prière. J'ai prié notre Père en des mots qui reflétaient ce que j'ai entendu son Fils dire dans les Saintes Écritures. Et je lui rappelais qu'il avait donné à frère Branham l'autorité sur la tempête, et en tant qu'un autre fils, je savais qu'une Néhémie faisait exception de personne. Ainsi, j'ai commandé que la tempête s'arrête dans le nom de Jésus-Christ, et j'ai cité le bluff de Satan, et je lui ai dit que son aiguillon était arraché sur le calvaire, et j'ai commandé qu'il s'arrête dans le nom de Jésus. Puis vouche, et la tempête s'est arrêtée tout d'un coup. Et d'alors, je pouvais parler aux frères très doucement, et vous pourriez entendre une épingle tomber par terre. J'ai continué à enseigner la doctrine de Christ, montrant aux frères que l'objectif que je poursuivais était de les aider à comprendre leur rôle en tant que des fils obéissants, et dans l'espoir qu'en arrivant à une compréhension de Dieu et de sa paternité, ils verraient eux aussi le rôle que Jésus a joué en tant que son Fils unique, et qu'en voyant son rôle, ils puissent aussi découvrir leur propre rôle comme fils. Nous avons pris une pause de déjeuner vers 13h30, et pendant que je marchais dehors, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y avait encore, autour de la ville, des nuages de la tempête suspendus en l'air à l'exception d'un rayon de 2 km au-dessus de nous, là où le fils, en anglais, fils et soleil sont homophones, trad, était clair et aucun nuage n'avait bloqué la lumière du soleil. J'ai spécialement remarqué la manière dont les nuages de la tempête entouraient encore la ville, mais j'avais l'impression que Dieu avait perforé un trou énorme dans le centre des nuages, et là où nous étions, c'était ensoleillé et chaud. Quand nous sommes revenus du déjeuner, nous sommes rentrés dans l'église, et j'ai repris d'enseigner sur la doctrine de Christ. Encore une fois, après environ 1 heure d'enseignement, la tempête Esther est encore revenue, de façon intensive, et la grêle Esther tombée et les gouttes de pluie étaient si grandes que quand ils ont frappé sur le toit, ça a sonné comme balle du golf. Cette fois-ci, je ne me suis pas senti conduit à arrêter cette tempête en priant moi seul comme la première fois, parce que ma mission vers ses frères était de les former, comme des fils de Dieu, à connaître leur position légitime dans la famille de Dieu. Ainsi, j'ai parlé aux frères et je leur ai dit que cette fois-ci, ils devraient prier et commander que cette tempête cesse. Alors, pendant les 5 minutes qui ont suivi ou quelque chose de ce genre, beaucoup de prières ferventes ont été adressées. Puis la tempête s'était arrêtée comme à la première fois. Et encore, j'étais capable de continuer à leur enseigner concernant le Fils de Dieu et son rôle comme un fils obéissant. Le mardi matin, nous avons encore entrepris un long voyage pour Kampala, Ouganda, qui était la capitale de l'Ouganda, située dans l'Ouganda central, près du lac Victoria. Les réunions ont commencé le mercredi matin à 9h et je peux dire que ces réunions étaient très différentes des réunions que nous avions déjà tenues au Rwanda et en Ouganda de l'Ouest. Avant mon arrivée pour ces réunions, plusieurs faux frères d'Amérique étaient allés d'église en église, essayant de persuader les prédicateurs à ne pas assister à mes réunions parce que je prêchais de Dieu comme Livel. Ils se sont investis à essayer d'effrayer les prédicateurs, en leur disant de s'éloigner de mes réunions. Inutile de dire que plus de 200 prédicateurs étaient présents à ces réunions, et je pouvais sentir beaucoup d'incrédulité en l'air. Mais le Seigneur a été fidèle et il a oint la prédication d'une manière beaucoup plus puissante que d'habitude. Et j'ai senti comme s'il a placé une épée dans ma main pendant ces réunions. Et par conséquent, j'ai manié cette épée avec toute la puissance que j'avais. Et Dieu nous a donné une grande victoire ces deux jours. Si vous pensez que Frère Vel prêche dur, il vous fallait être là. C'était le sermon le plus dur que j'ai entendu mais aussi le mieux indiqué. Et leur incrédulité Néhémie pouvait pas se cacher, j'ai défié leur incrédulité de venir avec leur Bible ouverte et de se tenir à côté de moi et de prouver par les Écritures où j'enseigne l'erreur. Personne n'a bougé. Vous pouviez entendre une épingle tomber parce qu'ils avaient peur de venir m'affronter face à face avec leur Bible ouverte. Et c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Ils sont tellement plongés dans leur tradition qu'ils ont peur de la parole. Comme un enfant devant une épée tranchante à deux tranchants. Ils ont peur de la prendre et de l'examiner. Et donc, ils ont refusé de venir. Mais cela n'a pas arrêté les incrédules de parler en privé contre la doctrine de Christ. Oui, c'était assurément une multitude mélangée. Mais Dieu m'a donné beaucoup de victoires pour résister à cet esprit incrédule face à face. À la vitesse de la pensée, les Écritures sont sorties de ma bouche et chaque excuse unitaire qui pouvait être pensée a été défiée ouvertement et a aussi été coupée rapidement en morceaux. Dieu m'a oint avec une telle hardiesse que j'ai défié leur incrédulité et je les ai défiés de venir s'asseoir à côté de moi avec leur Bible ouverte et de me montrer là où je n'ai mis leur a pas déclaré la vérité par les saintes écritures du message de William Branham. Après ces réunions, les prédicateurs qui ont voyagé avec moi ont reçu des rapports presque qu'en une heure, que ces réunions ont tellement agité ceux qui ont assisté à tel point que le pays tout entier se téléphonait de ce qui a eu lieu. Plus tard, quelques pasteurs ont essayé de convaincre un des pasteurs qui ont voyagé avec moi que j'étais en erreur, et que j'enseignais l'erreur de deux dieux de Livel. Ces hommes Néhémie sont pas venus avec leur Bible pour tenter de les convaincre, parce qu'ils savaient qu'une Néhémie pouvait pas le persuader par les saintes écritures. Quand je les ai vus parler, je savais qu'ils parlaient de moi, et je leur ai demandé pourquoi ils persistent sous l'influence de leur tradition et de leur credo au lieu de croire le prophète de Dieu et les saintes écritures. La seule réponse de l'homme était « Pourquoi es-tu venu ici pour agiter les gens ?» Et j'ai dit « Si je suis venu et que les gens n'ont pas été agités alors Dieu Néhémie m'a pas envoyé. » J'ai dit « Partout où Jésus Esther allait, il a agité les gens. » C'est Esther la même chose avec Paul et William Branham. Et je lui ai demandé pourquoi il pensait que ce devrait être différent aujourd'hui. Je lui ai demandé s'il croyait William Branham et il a dit, oui. Puis, je lui ai demandé s'il croyait que le corps de Jésus était Dieu et il a dit, oui. Je lui ai dit que William Branham a dit que ce corps-là n'était pas Dieu et je lui ai dit qu'une Néhémie croyait pas frère Branham et que fait, il appelait frère Branham un menteur. Je lui ai dit qu'il avait pour père le diable et qu'il était menteur depuis le commencement. Pendant les 2 jours que nous étions à Kampala, le diable m'a vraiment combattu de plusieurs façons, et j'avais une fièvre et une température de 102 degrés. C'était une guerre spirituelle véritable, qui se passait là parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. À la fin de ces réunions, nous avons voyagé pour le Kenya où nous avons tenu une réunion le vendredi soir. J'étais incapable d'y assister, parce que j'étais cloué par la fièvre. Mes frères Kees Van Klink a pris le service ce soir et a prêché un très bon message sur le ministère du Fils de l'Homme. Le jour prochain, samedi, j'ai été guéri de la fièvre et nous avons tenu de service et la parole de Dieu a coulé avec une telle grâce que les prédicateurs n'ont vraiment pas eu des questions à poser. Tout point de conflit avec la doctrine unitaire était bien présenté et il n'est mis resté rien sur quoi un incrédule pouvait s'accrocher. Dimanche, j'ai prêché dans 2 églises et les autres frères ont aussi prêché dans plusieurs églises. Nous étions très satisfaits des résultats des réunions du Kenya, et durant notre séjour, il n'y avait aucun incident. Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon, avertissement puis jugement 63-0724p, 51 et puis, nous voyons que l'apôtre Esther est un homme spécial. C'est Esther quelqu'un qui établit l'ordre. C'est Esther un homme envoyé par Dieu pour mettre les choses en ordre. Et c'est Esther exactement ce qui s'est Esther passé pendant ces réunions. Dans le message leçon Confu 60-1218p, 170 frère Branham a dit, je vais vous dire quelque chose. Je suis missionnaire, vous savez. Et maintenant, je crois qu'un missionnaire, c'est Esther quelqu'un qui va et qui vient. C'est Esther un missionnaire. Si vous allez rester là-bas, ils appellent cela un missionnaire. Mais là, si Esther un réside, vous avez simplement changé de résidence. Voyez, ce n'est Esther pas un missionnaire. Un missionnaire, il. Paul était missionnaire. Il n'est pas resté. Il a continué à se déplacer. Sans cesse, un missionnaire, non pas changé de résidence, mais continué simplement à aller, un missionnaire. C'est Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2006. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à briancocourec@yahoo.com.